Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le dimanche est un jour comme les autres, semble nous répéter à l'envi notre société, un jour pour consommer, voire donc travailler, jusqu'à faire de ce jour de repos un jour à la carte, un simple temps de récup, comme on dit, pour reprendre des forces afin de travailler à nouveau. Une vision de la vie très matérialiste qui n'est pas du goût de tous, comme de la communauté Ecclésiola. Cette communauté chrétienne discrète, tout de même née il y a presque 30 ans maintenant, fait du dimanche le climax de la semaine, pour reprendre le terme, un terme à la mode qui désigne le moment fort d'une histoire ou d'un film. Un temps pour retrouver la gratuité de l'amour de Dieu et de l'amour de Dieu évidemment rencontre. À la découverte de la communauté Ecclésiola, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce mardi, jour traditionnellement dévolu donc à la découverte des réalités de la vie chrétienne dans notre sud-ouest. Avec nous pour nous en parler, autour du plateau, François Meunier, vous êtes cofondateur de cette communauté Ecclésiola. Vous êtes avec nous par téléphone, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Gilles Binderiter, pardon, vous êtes membre de cette communauté, vous êtes un de ses anciens modérateurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Maëlys Binderiter, vous faites partie de cette communauté, vous êtes architecte, vous êtes donc la jeune pro de ce plateau, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Parlez bien près du plateau, du micro tous. Et Colombe Carrère, vous êtes étudiante et vous faites partie aussi de cette communauté, vous êtes étudiante en classe préparatoire d'école de Psychomote, bonjour.
Bonjour.
Tous près du micro, ça sera mieux. Alors, on va commencer avec vous, François Meunier, puisque vous nous faites l'amitié d'être présent par téléphone. Ecclésiola, ce matin, une des animatrices de la matinale avait l'air de connaître, mais de fait, c'est une communauté qui est peu connue. On va prendre le temps de découvrir un peu cette communauté. Pour faire écho à mon introduction, est-ce que vous avez l'impression d'être à contre-courant ? Cette communauté a-t-elle quelque chose d'important à nous dire aujourd'hui, à l'heure où on voudrait notamment solder le dimanche ?
Oui, peut-être que, en tout cas, je ne sais pas si on est à contre-courant, je pense qu'au contraire, on est dans le courant même de la vie chrétienne, dans ce qu'elle a de plus fondamental. C'est-à-dire avant tout une identité de relation, une grâce d'amitié. Je pense que être chrétien, c'est avant tout témoigner de cela, de l'amour qu'on a pour les uns pour les autres et que ça puisse se donner au monde. Et il est vrai que le dimanche est un lieu particulier pour les chrétiens puisque c'est son lieu fondateur. C'est là qu'ils célèbrent la Pâque et donc c'est là qu'ils trouvent toute son identité de chrétien et qu'il porte la force de l'évangile.
Alors, on va prendre le temps donc de découvrir cette communauté. Elle est donc née il y a presque 30 ans, en 1991. Au départ, c'est une histoire d'amitié, si j'ai bien compris, de simples étudiants qui se connaissaient, qui étaient liés et qui ont eu donc une intuition. Racontez-nous un peu les débuts, puisque vous avez fait partie des débuts de cette aventure.
Oui, les débuts étaient celles-là, c'est-à-dire on avait cette soif de pouvoir découvrir le Christ ensemble. On sentait bien qu'il n'était pas possible de vivre une vie de foi sans ces liens de relation et d'amitié. Et puis très vite, nous l'avons vécu autour d'une source qui est immense pour la vie des chrétiens, qui est la liturgie. Cette liturgie que l'on a pu...
Alors juste, excusez-moi, vous étiez étudiant où ? Il y avait combien de personnes ? Est-ce que vous étiez tous chrétiens, pas chrétiens ?
On était un petit groupe. Nous étions étudiants, certains étaient mariés, d'autres célibataires. Nous étions sur Bordeaux. Essentiellement, ça s'est joué dans le sud-ouest. Et puis après, ça a irrigué d'autres villes à la mesure des déménagements, de l'installation des uns et des autres. Nous avions à ce moment-là une petite vingtaine d'années et c'est au contact aussi par cette soif de la liturgie que nous avons rencontré aussi des communautés religieuses, des communautés monastiques. Et très vite, par la liturgie, nous sommes rentrés en complicité, en quelque sorte, avec elle, tout en ayant conscience que notre vocation était une vocation de baptiser dans le monde, pour annoncer l'évangile.
Alors quel type de communauté vous avez rencontré? Parce que dans les débuts, souvent les rencontres ou les grâces que l'on reçoit sont importantes. Quelles ont été les rencontres importantes des débuts de la communauté ecclésiola? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi d'un peu des signes de Dieu que vous avez reçus au début de cette aventure?
La rencontre avec les frères prêcheurs, avec les dominicains de la province de Toulouse et particulièrement sur Bordeaux ont été un élément très important pour nous, puisque c'est là qu'on a été façonné à la liturgie et particulièrement à cette dimension immense qu'est la liturgie des heures au contact des psaumes. La rencontre avec un homme qui nous a beaucoup marqué, qui est le frère André Gouze, qui est compositeur de cette musique liturgique, mais au-delà qui est aussi le témoin d'une vraie mémoire de tout un patrimoine de la grande tradition de l'Église et par là même une façon d'être dans la vie de l'Église.
André Gouze, donc, qui est de notre région, hein. Et quand vous dites que vous l'avez rencontré, ça veut dire quoi? Vous aviez l'habitude en fait d'aller le rencontrer dans l'Aveyron? Il y avait une complicité qui s'est créée autour de la liturgie. Vous pouvez préciser un peu cette amitié?
Oui, nous l'avons rencontré, nous sommes rentrés en amitié avec lui à proprement parler. Nous l'avons rencontré, nous avons célébré avec lui, nous avons notamment célébré la Pâque, le Triduum Pascal. Je pense que c'est une des plus belles choses que nous a donné d'ailleurs la réforme liturgique, de pouvoir célébrer avec amplitude la Pâque. Et je pense que le frère André a été un chantre, immense de cette joie chantée, hein, de la Pâque.
Alors on y reviendra. En tout cas, donc, je le disais en introduction, le cœur de l'intuition d'Ecclésiola, je vais vous laisser un peu l'expliquer, c'est donc de refaire du dimanche la fête qu'elle devrait être. Vous citez pour ça comme exemple ou comme parallèle le Shabbat des Juifs, je le disais ce matin en teasing de l'émission. Il y a d'autres communautés, par exemple, je pense à la communauté de Béatitude qui, eux, fêtent carrément le Shabbat. Bref, vous dites qu'il faut apprendre à refaire du dimanche une fête comme il se doit. Et pour ça, en tout cas dans les documents que vous m'avez fait suivre, vous essayez, on a l'impression, de revenir un peu à la joie des premiers chrétiens et à leur rapport au dimanche. Qu'est-ce que, au long de vos lectures ou méditations, vous retenez de cette manière dont les premiers chrétiens célébraient le dimanche et qu'on a l'impression que vous voudriez retrouver d'une certaine manière?
Oui, il s'agit surtout de retrouver un espace-temps. On vit dans une société qui va vite, qui va très vite, comme vous le notiez dès le départ. On ne prend plus le temps de respirer, on ne prend plus le temps de se retrouver vraiment. Et pour nous chrétiens, le temps de célébrer, je dirais, avec amplitude. Certes, on a l'Eucharistie dominicale qui reste de toute façon le joyau de notre dimanche, mais peut-être qu'il y a à penser les choses autour de cette Eucharistie et de vivre le dimanche de façon un petit peu agrandie, de telle façon que dès le samedi soir, qui est dans le temps tel que les fils d'Israël le percevaient, il y eut un soir, il y eut un matin, on rentre dans le dimanche dès le samedi soir, et donc que dès le samedi soir nous soyons dans cette attente, dans cette rencontre avec le Christ ressuscité dans sa Pâque.
Alors donc, je vous posais la question des premiers chrétiens, est-ce que vous pouvez juste me dire quand même ce que vous avez un peu glané au long de vos lectures? D'ailleurs, vous reprenez souvent une expression, voilà, que je ne la retrouve plus, sans le dimanche, nous ne sommes rien, c'est ça, ou nous ne pouvons vivre.
Nous ne pouvons vivre.
Oui, c'est donc une citation qui remonte au premier siècle de l'Église, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut savoir de la manière dont les premières communautés chrétiennes fêtaient le dimanche? Est-ce que ça ressemblait d'une certaine manière à ce qu'on va découvrir au long de cette émission, à la manière dont Ecclésiola essaie de célébrer le dimanche?
Oui, vous faites référence à un dialogue assez étonnant entre un proconsul romain et puis un martyr à Abitène dans ce qui est aujourd'hui l'ancienne Carthage. Enfin, et effectivement, les premiers chrétiens avaient cette conscience que sans le dimanche, ils ne pouvaient vivre, et par là même de pouvoir même risquer sa vie pour pouvoir célébrer ce dimanche. Et donc, oui, ce dimanche, on célèbre la Pâque. Et donc, dès le samedi soir, il y a dans cette intuition des premiers chrétiens ce temps d'attente qui se vit dans une veillée. et on le retrouve encore dans les églises d'Orient qui ont toujours gardé cette tradition bimillénaire de se retrouver dès le samedi soir pour prendre le temps de prier, d'allumer les lampes, d'attendre le Christ qui va revenir et d'aller à sa rencontre, car on est dans ces temps assez étonnants où on est à la fois dans le déjà là et pas encore, et sans doute que l'état de veille, le chrétien est un veilleur, et donc cet état de veille est un lieu qui dit le dimanche.
Alors,
donc, concrètement, le samedi soir, oui.
On va prendre le temps après de rentrer dans les différents aspects de votre vie communautaire. Donc, Gilles Binderiter, donc, me le rappelait en début d'émission, tout ça fait écho évidemment au Concile Vatican II, l'importance accordée à la liturgie, à la parole, à l'Église, à la fraternité. Pour faire un petit peu de contextualisation, je le disais en introduction, aujourd'hui, c'est vrai que le dimanche, on a l'impression que c'est un enjeu presque de civilisation, à côté duquel beaucoup de passe, quand on parle notamment de libéralisation du travail du dimanche. Vous avez parlé donc de la question de prendre le temps. Vous avez une citation que vous mettez sur pas mal de vos documents que je vais donner, puis je vous la laisser la commenter, qui dit probablement quelque chose de l'esprit de votre communauté. « Il est un royaume du temps. Là, le but n'est pas d'avoir, mais d'être, non pas de posséder, mais de donner, non pas de régner, mais partager. » Pas de vaincre, mais adhérer. D'où est tirée cette citation et pourquoi est-ce que vous la citez souvent ?
Oui, c'est une citation qu'on aime beaucoup, qui vient d'un rabbin qui s'appelle Abraham Heschel et qui a écrit un ouvrage que j'invite les auditeurs à lire, qui est une petite merveille, qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». De fait, je pense que fondamentalement, le chrétien est un bâtisseur du temps dans la ligne même de toute cet enracinement de ces sources juives. C'est une intuition que l'on retrouve dans la bouche de notre pape François qui ne cesse de répondre, de répéter à quel point le temps prime sur l'espace.
Le temps est supérieur à l'espace, ça fait partie, oui, de ces grandes lignes de conduite. Parfois même dans l'impression de ces manières de gouverner, oui.
Exactement. Et donc, il y a dans cet espace-temps qui s'ouvre avec le dimanche, une sagesse immense dans lequel, eh bien, on apprend déjà la relation les uns avec les autres à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de la parole de Dieu et en célébrant le mystère de la Pâque.
Alors François Meunier, il y a un autre point qui pour vous est important, on imagine pour votre communauté, avant qu'on fasse une première pause, c'est à l'heure de la déchristianisation, de la désertification presque chrétienne d'une partie de la France, il suffit de sortir des grandes agglomérations, je pense notamment à Toulouse ou à Montpellier dans notre Occitanie pour découvrir donc la campagne. C'est une campagne bien méritante, hein, je ne montre personne du doigt, mais qui parfois affrontent des difficultés importantes avec des communautés de plus en plus réduites. Vous dites qu'il ne faut pas s'en inquiéter, et à vous entendre, en fait, il faudrait presque redécouvrir justement une autre communauté qui est la vie de famille. Expliquez-nous pourquoi vous insistez sur ce point.
De toute façon, l'histoire nous donne à vivre cela, donc il ne faut pas s'en inquiéter. C'est vrai qu'on a en mémoire ce passage de l'évangile de Luc où le Christ lui-même nous dit « N'aie pas peur, petit troupeau, le royaume t'a été donné ». C'est vrai que cette notion de petite église qui appartient à l'ADN même de la vie ecclésiale, eh bien, on est appelé à le retrouver maintenant. On est dispersé, on est en petit nombre. Pour autant, il ne faut pas pouvoir s'en inquiéter plus que cela. Il faut se donner les moyens de retrouver la source. Et une des sources, c'est certainement de retrouver des petites communautés qui se retrouvent autour de la parole de Dieu, qui irradient la vie des maisons et qui célèbrent la Pâque chaque dimanche. Ça, c'est un point très important.
Alors, pour finir, écoutez, on va pas tarder à faire une pause musicale, mais on a de fait un petit souci technique. Voilà, je fais signe au technicien. Est-ce qu'on pourrait lancer une pause musicale afin de vous retrouver ? Excusez-nous pour cette difficulté. On vous retrouve dans quelques minutes. On retrouve nos invités pour parler de la communauté Ecclésiola.
Acclamez le Seigneur. acclamez le Seigneur pour sa gloire et sa puissance. Acclamez le Seigneur pour la gloire de son nom.
Prosternez-vous devant le Seigneur, lui qui se manifeste dans sa sainteté.
La voix du Seigneur se résout, le Dieu de gloire fait retentir le tonnerre. C'est le Seigneur sur l'immensité des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur dans sa splendeur. Acclamez le Seigneur.
La découverte de la communauté Ecclesiola, c'est pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, François Meunier qui est cofondateur de cette communauté, Gilles Binderiter qui est donc membre de cette communauté, ancien modérateur, Maëlys du même nom qui est donc sa fille Binderiter, architecte, et Colombe Carrère qui est étudiante. Toutes deux font partie évidemment de cette communauté. Alors on a eu quelques petits soucis humains et techniques avant la pause musicale. Il y a des choses qu'on a oublié de dire dans la présentation, je m'en rends compte. François Meunier, en quelques mots. Donc aujourd'hui, Ecclesiola, donc à presque 30 ans, vous êtes présent dans une dizaine de diocèses. Combien de familles en font partie ? Expliquez-nous un peu quel est le développement de la communauté 30 ans après cette intuition.
Oui, 30 ans après, on est à peu près 200 membres sur l'Hexagone. On est effectivement sur tous ces diocèses avec des réalités qui sont très différentes de diocèse en diocèse. On aime beaucoup cette unité, mais en même temps pas dans l'uniformité, et donc il y a des réalités qui sont à la mesure de ce que l'on peut vivre dans nos différents diocèses.
Alors, on va prendre le temps donc de s'arrêter sur trois points que vous essayez de vivre dans votre communauté. Trois points donc qui sont les temps forts de toute vie chrétienne, la liturgie, la parole de Dieu et la vie en Église. Si on commence donc par la liturgie. Alors vous, on l'a bien compris, vous essayez donc de mettre le paquet, en tout cas le dimanche, à sa juste place, d'essayer d'organiser en fait votre vie autour du dimanche. J'ai même vu cette belle expression, être à l'école du jour du Seigneur. Concrètement, comment est-ce que vous essayez de vous y prendre dans vos familles? Quelle est la proposition qui est faite à tous les membres de votre communauté? François Meunier, pour commencer.
Là, en fait, le centre, ça reste le dimanche. Et donc, le rendez-vous important, c'est ce rendez-vous au soir du samedi où on invite tous nos amis à pouvoir célébrer cela. Alors, tout à la fois dans les églises, quand on peut le réaliser, que le lieu s'y prête, ou dans les maisons. Et car la maison aussi est une petite église, une église domestique, et là aussi on peut mettre en œuvre notamment cette prière des psaumes. Ce n'est pas forcément une chose qui est facile, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine dans cette proximité qu'on peut avoir avec des textes, et des enfants très jeunes peuvent très vite découvrir comment se nourrir de ces psaumes, parce que finalement ça rejoint la vie, ça rejoint leur vie.
Alors Gilles Benderiter, vous par exemple, comment est-ce que vous y prenez? J'ai vu qu'il y avait des suggestions qui étaient faites, essayer dès la veille de préparer le repas de façon à rentrer en fait dans cette fête. J'ai cru même comprendre préparer pourquoi pas quelques activités festives, et le soir du samedi, enfin le samedi soir, donc allumer des candélabres, allumer des bougies dans la maison. Comment vous y prenez chez vous?
Oui, alors donc une petite liturgie familiale qui est en place depuis pas mal d'années dans notre famille, où on a un candélabre à 7 branches, où on allume donc une branche de plus pour aller vers le dimanche pendant toute la semaine.
Comme dans une synagogue, hein, comme dans une famille juive.
Voilà, nous c'est 7 branches et non pas 9. Et
oui,
donc arrivé au samedi soir, donc on célèbre cette entrée dans le dimanche en lisant au cœur d'une petite liturgie familiale, ou ça peut être à l'église aussi si on se rassemble à plusieurs, l'évangile du dimanche qu'on commence à méditer dès le samedi soir, à partager aussi, c'est pas simplement une méditation qui est donnée, mais c'est un échange qui permet de...
C'est-à-dire en fait concrètement vous y prenez comment? Vous réunissez
la
famille?
Maison, ou même parfois à l'église, celui qui va proclamer l'évangile derrière va poser des questions ensuite, donc c'est une espèce d'homélie interactive qui permet d'échanger, et que chacun apporte sa pierre. Ça nous vient un peu de l'habitude de la Lectio Divina, où on médite à plusieurs en groupe la parole de Dieu et l'évangile. Donc il y a cette habitude de fréquentation de l'évangile à plusieurs, comme un repas partagé, mais le repas de la parole de Dieu.
Alors on y reviendra, on demandera à ces dames à la fin de l'émission comment elles ont vécu ça, mais a priori ça les a pas traumatisées. François Meunier, est-ce qu'il y a d'autres choses vous que vous essayez de vivre, ou des familles qui essayent de vivre les choses un peu d'en rajouter, j'ai envie de dire, à cette préparation de la liturgie dominicale en cette veille? Alors le dimanche commence avec les vêpres, je crois, dans la liturgie. Est-ce que vous, dans votre famille, par exemple, il y a d'autres choses que vous avez mis en place pour vous aider à rentrer dans ce grand moment du dimanche?
Oui, cette notion de préparation la veille est importante. Oui, pour que peut-être aussi une insistance à ce que le repas dominical soit un moment de réel accueil. On puisse, à cette occasion, de pouvoir accueillir au-delà du cercle familial, de telle façon que l'hospitalité autour de la Pâque soit posée à ce moment-là. Donc ça, c'est la table elle-même est un prolongement de la vie liturgique, et autour de la table, prendre le temps au moment du repas du dimanche, d'un temps de bénédiction plus large, et peut-être de réécouter certains passages de l'écriture, simplement, et puis surtout pour être heureux de se retrouver.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortant de la messe, vous, en famille, comment vous continuez à parler en fait de l'évangile, à partager autour de ça, c'est ça?
Oui, il peut y avoir un moment au tout début du repas où il puisse y avoir des échanges à travers ce que l'on a pu entendre des différentes prédications, homélies qu'on a pu recevoir, et puis très naturellement de voir comment toute cette parole rejoint notre vie. Très important pour nous, c'est ça, c'est de voir que c'est de la vie dont on parle, et donc la parole vient éclairer la vie, et dans une certaine mesure, la vie éclaire la parole.
Gilles Benderiter,
oui, je crois qu'il y a la façon dont on met en place le dimanche, c'est aussi une chose très importante, c'est de quitter un rythme, le rythme trépidant de notre semaine, pour être disponibles les uns aux autres, en famille, mais avec une famille élargie, invitée.
Mais alors, comment vous y prenez ? Est-ce qu'il y a des choses...
C'est-à-dire...
Prenez la décision, ou vous mettez tous les smartphones dans une corbeille, c'est...
Non, simplement, on quitte un peu, nos activités habituelles pour être disponibles les uns aux autres, passer un peu de temps ensemble.
Donc vous ne prévoyez rien d'autre, on va dire, à partir du samedi soir, que d'être ensemble ?
On invite facilement une famille sur le parvis de l'église en sortant de la messe pour venir déjeuner chez nous. Voilà, c'est un jour de disponibilité, un jour de repos dans le Seigneur, où on est là pour être dans la joie du vivre ensemble.
Alors, deuxième point, c'est donc la place de la parole de Dieu. Donc, vous cultivez, et ce depuis les origines, la méditation de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc la Lectio Divina. François Meunier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre proximité avec une communauté religieuse que certains connaissent, mais peut-être d'autres pas du tout, qui est la communauté de Bose en Italie, avec une figure qui s'appelle Enzo Bianchi. Comment s'est nouée cette relation, et puis quel lien avec la Lectio Divina ?
Oui, je pense qu'un des grands points essentiels de notre concile a été la redécouverte de la place centrale de la parole de Dieu. Et il est vrai que parmi les artisans de la mise en œuvre concrète pastorale de cette centralité de la parole, la communauté de Bose au nord de l'Italie a eu un rayonnement tout particulier. C'est une communauté œcuménique qui rassemble hommes et femmes, et avec ce désir de vivre la parole de Dieu plus proche. Et donc le frère Enzo Bianchi a été aussi pour nous un ami, et toujours un ami très proche, pour nous enseigner cette façon assez même rabbinique d'aborder la parole de Dieu, qui est ancienne, qui est très ancienne, puisque les moines la vivent depuis les origines, et notamment à l'abbaye de Maïlis dans les Landes, on a pu avoir un relais très heureux de cette pratique de la Lectio Divina. Et aujourd'hui, sans doute que pour la vie de l'Église, il est à retrouver ce sens du partage de la parole. Alors, l'Lectio Divina va au-delà de cette notion de partage, on pourra le voir.
Mais alors, François Meunier, quelle forme ça prend dans votre communauté, juste c'est pareil, est-ce que vous pouvez être concret? Comment est-ce que vous incitez donc les membres de la communauté à prendre ce temps de partage de la parole de Dieu? C'est une invitation quoi, à le faire chacun, chaque jour, à le faire ensemble, communautairement, au moins une fois par semaine? Comment ça se passe?
Alors, nous, dans notre ecclésiole, nous vivons cela chaque semaine. On se retrouve le jeudi soir. Le jeudi soir est donc un temps d'école de la parole qui est attaché à notre église cathédrale. Et les gens viennent à volonté. On a une large hospitalité autour de cela, avec des personnes même qui peuvent venir de la rue et qui viennent ensemble se mettre autour d'une table pour interpréter la parole, voir comment cette parole elle nourrit leur vie. Donc cette régularité est importante. Bien sûr, on invite à ce que chacun puisse avoir ce temps personnellement de Lectio Divina, parce que par nature, la Lectio Divina est une prière qui est une prière personnelle, mais elle ne prend force d'une prière personnelle que parce que justement on peut la vivre de façon communautaire, et que ensuite elle puisse être déployée dans cette célébration, notamment du dimanche et au soir du samedi déjà.
Alors Gilles Benderiter, on entend donc à Toulon, donc François Meunier, ils font ça dans une église,
oui.
Donc le jeudi soir, ils invitent donc largement, y compris donc les passants, voire les personnes de la rue, pour que tout le monde puisse, on va dire, partager sur la parole de Dieu. À l'échelle d'une famille, comment ça se vit, ou peut-être dans des lieux où il n'y a pas d'église cathédrale, comme dit François Meunier?
Alors à Toulouse, on le vit mensuellement en paroisse, avec la paroisse Notre-Dame du Rosaire des Dominicains, donc on a une... la prochaine rencontre, je crois que c'est mercredi prochain, où on se réunit à une dizaine pour méditer l'évangile du dimanche et déjà se préparer au dimanche suivant. À l'échelle familiale, ça se fait tout simplement dans la liturgie familiale où tous les soirs on lira l'évangile du jour. Et sur lequel on pourra échanger avec les enfants, et on continue même avec les enfants plus grands quand ils sont à la maison. Et puis une prière personnelle aussi à partir de l'évangile, parce que la fréquentation de la parole de Dieu devient addictive, c'est-à-dire plus on creuse la parole, plus on a soif de la parole, plus ça devient un besoin, une nourriture indispensable à notre vie quotidienne.
Donc vous partagez tous les jours en famille l'évangile du jour. Oui. Le samedi soir, on imagine que vous prenez aussi un temps de...
Tous les jours, il peut y avoir des exceptions. Hein,
on n'est pas des
surfamilles. Non, mais,
vous êtes les personnes témoins de l'émission, mais quand même.
Non, on essaye de faire ça tous les jours. Ce sera
donc tous les jours, un rassemblement éventuellement hebdomadaire.
Et surtout, l'important, c'est de rentrer ensemble dans le dimanche, le samedi soir. Là, on mettra un soin particulier à ce moment-là, qui est vraiment le point phare de notre semaine.
Alors, donc la liturgie avec ce dimanche qui commence donc le samedi soir, puisque c'est comme ça qu'il commence liturgiquement, avec toutes ces attentions, on l'a dit, hein, allumer des bougies, se préparer pour le lendemain, préparer la fête du dimanche, l'attention à la parole de Dieu, donc à vous entendre quotidienne, hebdomadaire. Le dernier point, donc, c'est la vie de l'Église, et pas de surprise de ce côté-là, avec cette attention aux plus pauvres que vous citiez tout à l'heure, François Meunier. Sur la vie de l'Église, expliquez un peu ce troisième pilier de la communauté Ecclesiola, comment vous le vivez. Ça paraît tout simple, hein, Ecclesiola, mais ça va mieux en le disant, comme disait un grand hebdomadaire. Expliquez-nous, cette vie d'Église, à quoi ressemble-t-elle, François Meunier ?
Oui, j'aime bien votre expression de vie de l'Église, parce que finalement, on n'a pas le désir de vouloir vivre dans un mouvement et refermer sur nous-mêmes dans un mouvement. On a le désir de vivre dans nos paroisses, dans notre Église diocésaine, et de la servir comme elle est. Et effectivement, l'accueil des générations, le fait que les générations soient rassemblées, que la famille puisse aider à cela, permet de vivre les choses dans une hospitalité beaucoup plus large à d'autres réalités de la vie de l'Église.
Alors expliquez-nous cette attention importante, parce que vous insistez beaucoup là-dessus. On l'a pas dit d'ailleurs, cette communauté, il y a différents états de vie qui sont présents, il n'y a pas que des familles. Mais aussi, vous insistez sur le fait que ça doit être intergénérationnel, qu'il doit vraiment y avoir une attention sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ça ?
Oui, c'est un point sur lequel la société achoppe actuellement, et peut-être on le retrouve dans la vie de l'Église, c'est-à-dire qu'on se parle peu entre générations, et même dans l'expérience qu'on peut avoir de nos vies ecclésiales, on les vit généralement par tranches, les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre, les jeunes pros, enfin vous connaissez toutes ces catégories. Il nous semble que, et particulièrement aujourd'hui, dans ce temps de grandes mutations à la fois de la société et de la vie de l'Église, dans ce temps d'une certaine fragilité, de centre-crise, il est important de retrouver la source, c'est-à-dire que les chrétiens se rassemblent entre jeunes et vieux et qui se réjouissent ensemble, selon le vocable du psaume. Et cette complicité des générations autour de la parole, c'est très riche de pouvoir avoir plusieurs générations qui commentent, qui interprètent l'écriture autour de la parole et autour de la vie, permet de donner une certaine approche évangélique qui est différente de ce que la société nous donne. Et donc ce lien des générations offre la possibilité d'une hospitalité à des gens plus fragiles, et on voit à quel point, lorsqu'ils se retrouvent dans un lieu où il y a plusieurs générations, l'accueil peut se faire beaucoup plus simplement.
Gilles Benderiter, j'ai lu en préparant l'émission que si on pouvait résumer en fait la communauté Ecclesiola, c'était donc mettre la parole de Dieu au cœur de la vie des membres de cette communauté, et puis avoir un engagement social auprès des plus démunis. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette attention? Vous, par exemple, je ne sais pas, dans votre famille, c'était bien pensé à inviter tout simplement la grand-mère ou la voisine à l'occasion du dimanche?
Oui, je crois que c'est des choses simples, c'est s'habituer à avoir ce réflexe de regarder quel est celui qui souffre, trouve, celui qui a le plus besoin d'une présence autour de soi, bien sûr en famille, et puis autour de nos églises aussi, très souvent on a des personnes en difficulté qui demandent déjà pour commencer qu'on puisse parler avec elles, être présente avec elles, avoir simplement une communication avec ceux qui sont aux abords de nos églises et qui sont heureux qu'on fasse attention à elles.
Voilà, Ecclesiola, une communauté, on va dire, toute simple, mais qui ne fait pas de bruit, mais qui grandit. Vous êtes donc présent, comme je l'ai dit, aujourd'hui dans 10 diocèses. L'Église à l'échelle, on va dire, de la famille. Avant qu'on fasse une deuxième pause musicale et puis qu'on retrouve certaines de nos invités, donc en troisième partie, qui vont nous raconter un petit peu comment elles ont vécu tout ça, je vous donnerai cette citation de Jean-Paul II, qu'on peut trouver aussi sur les documents qui parlent de votre communauté. Dans un foyer chrétien, se retrouvent différents aspects de l'Église, tels que l'amour mutuel, l'attention à la parole de Dieu et la prière commune. Le foyer est l'endroit où l'évangile est reçu et vécu. Il est l'endroit à partir duquel l'évangile rayonne. C'est donc Jean-Paul II, mais ça parle aussi de ce que vous essayez de vivre à Ecclesiola. On fait une deuxième pause et on vous retrouve.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte de la communauté Ecclesiola, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient maintenant. Autour du plateau était avec nous François Meunier, cofondateur de cette communauté, Gilles Binderiter, et non pas Binderiter, le pauvre, qui est donc membre de cette communauté, ancien modérateur, et Maïlis, du même nom, architecte, et Colombe Carrère, qui est étudiante. Tout le monde fait partie de cette belle communauté Ecclesiola qu'on essaie de faire découvrir. L'Église à l'échelle de la famille, pour résumer, avec une attention très particulière donc portée au dimanche, église présente, enfin communauté qui est présente dans une dizaine de diocèses et entre autres dans notre sud-ouest. On va prendre le temps, comme à chaque fois dans ces émissions, donc d'avoir un petit peu plus une séquence témoignage avec vous, courageuse que vous êtes. Alors Maïlis Binderiter, et non pas Binderiter, donc vous êtes née dedans, comme Colombe Carrère. Pourquoi pas, à la limite on s'en réjouit. Comme à chaque fois on essaye un petit peu de voir un peu l'avant et l'après. Alors pour vous, il n'y a pas vraiment eu d'avant, puisque ça a toujours été le cas. Vous me disiez en préparant l'émission que parmi les beaux souvenirs que vous aviez de la fréquentation de cette communauté via vos parents, c'était donc la célébration des vêpres. Alors on l'a entendu, François Meunier et votre père nous ont raconté que dès le samedi soir on rentrait dans cette liturgie. Redites-nous un petit peu à quoi ça ressemble, on va dire, vu de vos yeux d'enfant et d'adolescente. Déjà, on sonnait la cloche, c'est ça ?
Oui, c'est quelque chose qui était présent dans notre vie de tous les jours. Donc, comme le repas, il y avait deux cloches. Il y avait la cloche pour la prière et la cloche pour le repas.
Donc, on commençait par la prière ou on commençait par la prière, oui. D'accord.
On commençait par la prière. Donc, on n'y allait pas toujours forcément de bon cœur, comme tout enfant à qui on demande de faire quelque chose. Mais en tout cas, on ne s'est jamais posé la question d'y aller ou pas. Et même si parfois, on attendait vraiment la dernière seconde pour descendre et qu'on entendait le début des vêpres, on arrivait en courant et puis on était tous là pour vivre.
Alors, à quoi ça ressemblait ces vêpres ? Est-ce que vos parents chantaient aussi bien que dans ces extraits d'André, une liturgie inspirée d'André Gousse qu'on a entendu?
Ah bah alors c'est une liturgie familiale, donc oui, bien sûr qu'il chantait merveilleusement bien, ou peut-être moins bien.
Mais surtout, quels souvenirs vous en gardez dans votre enfance ou votre adolescence? Ça vous a marqué en profondeur? Ça vous a fait, on va dire, grandir dans une vie de foi?
Bien sûr, ça m'a... Alors, j'ai pas un souvenir marquant, mais j'ai cette présence totale, en fait, dans toute mon enfance de cette prière. Et en fait, c'est quelque chose qui me nourrit en permanence par bribes qui revient et qui, en fait, qui est quelque chose qui est dans ma structure personnelle, en fait, qui m'a construit parce que ça a toujours été présent.
Quand je disais un petit peu plus tôt dans l'émission que Ecclesiola, c'était donc se mettre à l'école du jour du Seigneur, vous avez l'impression que vous avez été quelque part à l'école du jour du Seigneur au long de ces années de votre enfance et adolescence ?
Oui, le dimanche a toujours été une journée très particulière, on y a toujours fait une grande attention. Et avec cette entrée dans le dimanche par les vigiles, c'est quand même quelque chose en fait de se dire dès le samedi soir qu'on commence quelque chose en fait, que c'est pas juste à partir de la messe du dimanche. Parfois on part un peu vite à la messe, etc. Donc on est un peu bousculé en fait dans ce début du dimanche. Et le fait de s'être réuni en fait le samedi soir nous permet en fait d'être déjà entré, d'avoir déjà entendu la parole et de pouvoir s'en renourrir à nouveau. Durant la messe.
Alors, je vous disais aussi en préparant l'émission qu'on se demande, on a presque l'impression d'interroger une miraculée par les temps qui courent, si tout ça a été vécu avec difficulté ou pas. Vous me disiez que pas tant que ça, hein. Pour vous, vous saviez en fait qu'il y avait là quelque chose de bon, et donc, même si ça vous arrivait de grogner ou de renacler, vous avez vécu assez simplement cette proposition, cet héritage.
Oui, comme quand les parents nous forcent à manger des haricots verts, on sait que c'est bon, on le fait, et puis on se rend compte que qu'on grandit sainement, en fait, qu'on grandit et que ça nous apporte quelque chose de bon, quoi. On ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'on le fait, mais on sait que c'est une bonne chose, comme le peuple de Dieu qui marche au désert, qui ne sait pas vers où, mais il sait que ce qu'il fait plaît à Dieu.
Ah, donc vous avez quand même murmuré, parce que les Hébreux ont murmuré, hein, on dit même qu'ils avaient,
ils avaient
la nucrède. Alors vous avez vécu une forme de bascule, vous dites que c'est un peu votre passage à la vie d'adulte. Lors de vos études, vous êtes parti à l'étranger, c'était donc il y a quelques années, c'était l'occasion pour vous d'interroger un petit peu tout ce que vous aviez reçu. Rétrospectivement, quand vous regardez dans le rétroviseur, donc, qu'est-ce que vous avez dans votre besace pour vous lancer dans votre vie à vous? Quels sont, je ne sais pas, les quelques trésors que vous avez hérités de cette fréquentation, de cette communauté?
Alors c'est vrai qu'à ce moment-là où j'ai eu un peu cette remise en question et ce nouveau choix, en fait, ce choix d'adulte, se dire bah, en fait, je choisis ou non, en fait, de continuer tout ce que j'ai vécu, je me suis retournée et j'ai vu aussi tout ce que m'avait apporté la famille, mais aussi la communauté ecclésiola, donc, qui était une vraie expérience de vie chrétienne en dehors de la vie familiale. Et c'est hyper important quand on se lance dans la vie adulte, de se dire mais en fait, j'ai déjà vécu cette vie chrétienne et j'ai juste à la continuer. Et pour ça, j'ai des outils, en fait. J'ai cette prière des vêpres que je peux prier. J'ai cette connaissance de la démarche de la Lectio Divina, ce goût de la développer. Et j'ai gardé aussi des amitiés très fortes de personnes qui ont grandi en vivant la même chose que moi dans la communauté.
Voilà, parce que il y avait quand même des rassemblements annuels. Vous voyez principalement au moment du Tridium. Et vous me disiez quand même, au bout de 20 ans, à se retrouver à l'occasion du Tridium ou l'été, ça permet de nouer certaines amitiés. J'aimerais que vous insistiez un tout petit peu, avant de donner la parole à Colombe Carrère, sur la Lectio Divina, parce que c'est pareil, c'est par les temps qui courent, une jeune femme qui s'adonne à la Lectio Divina, c'est relativement rare. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'aujourd'hui c'est important pour vous? C'est-à-dire, vous avez le réflexe, vous avez en mémoire comme ça des échanges en famille?
Alors en mémoire, j'ai des échanges en famille, j'ai des échanges, mais alors moi ce qui m'a le plus marqué, c'est l'Electio Divina lors de rassemblements, donc on se retrouve par petits groupes, donc intergénérationnels, il y a les grands-parents d'une famille, les parents d'une famille, les petits d'une autre, et on échange autour de la parole. Il y a des échanges qui sont absolument incroyables, où vraiment on a l'impression d'avoir avancé, quoi, d'avoir vécu quelque chose tous ensemble.
Et la parole de chacun est importante, autant celui qui a 8 ans que celui qui en a 97.
Oui, c'est... tout à fait. Et à côté de ça, il y a eu d'autres Lectio Divina qui étaient un peu plus laborieuses. Mais à aucun moment, je suis sortie de ces Lectio en me disant que je regrettais, que j'avais perdu quelque chose. Et en tout cas, j'avais conscience d'avoir avancé dans ma recherche de Dieu et d'avoir passé un moment, en fait, en communauté vers la recherche de la parole de Dieu.
Alors, Colombe Carrère, vous êtes un petit peu plus jeune que Maëlys Bindériter, vous êtes étudiante, peut-être vous avez un tout petit peu moins de recul. Si on doit faire un peu le même mouvement, donc un peu l'avant et l'après, vous, à propos de l'avant, vous vouliez insister sur Pâques. Alors ça tombe bien parce que on n'a peut-être pas assez insisté. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre communauté, hein, le Verbe de vie qui vit comme ça, comme le Tridium Pascal chaque semaine, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche saint. Quels souvenirs vous avez de ces Pâques? Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme souvenir?
Alors, Pâques, ben, c'était d'abord les rassemblements annuels pendant... Donc c'était en particulier à l'abbaye de Maëlys. Et là, on retrouvait...
Dans les Landes, donc près de chez nous.
C'est ça. On retrouvait donc des personnes qu'on avait vues les années précédentes, mais aussi...
Qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans? Racontez-nous, c'était quoi? C'était la fête? C'était la manière de le préparer? Quel était votre regard d'enfant sur ces événements?
C'était ça. C'était surtout cette idée de préparation vers le samedi soir et vers le dimanche, pour célébrer le dimanche. En fait, nous, en tant qu'enfants, on avait plein d'autres activités à faire juste pour se retrouver, enfin, plein de jeux. Mais toute la communauté nous incitait à préparer. Enfin, à faire d'autres activités qui, dans l'idée de préparer le samedi soir. Et en fait, c'était quelque chose... Donc nous, on nous tirait un peu de nos jeux d'enfants, mais tout ça pour se rendre compte que... Enfin, on se rendait compte au bout d'un moment que tout ce qui se passait le samedi soir nous poussait énormément.
Enfin, on a compris en tout cas que, étant enfant, on vous aidait à rentrer dans ce grand mystère du tritium pascal.
Une fois qu'on l'avait. Oui.
Et alors, on va juste, comme je vois le temps qui passe, on va passer sur l'après. Vous voulez insister sur deux points qui disent un petit peu ce que vous avez reçu dans cette communauté, c'est que vous avez appris dans cette communauté à non seulement à prier, donc à essayer d'avoir une relation personnelle avec Dieu, mais aussi la foi en acte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous auriez un exemple?
Oui, par exemple, ben c'est tout la vie fraternelle qui s'y déroule dans ce genre de rassemblement et qui est particulièrement, enfin, qui est particulièrement forte et qui, par exemple, nous pousse même, enfin, moi en tout cas, m'a poussé même dans les moments de questionnement, etc. Enfin, de remise en question plus personnelle de ma foi personnelle, etc. Le souvenir de ces moments où des plus âgés aidaient les plus jeunes, ou les plus jeunes même apportaient énormément aux plus vieux, et où chacun a une attention très particulière à l'autre. Et,
vous disiez que vous étiez incité aussi à vous entendre avec ceux avec qui, a priori, vous n'auriez pas d'affinité,
ouais,
c'est ça,
ouais.
Vous avez un souvenir qui vous revient en mémoire ou pas trop?
Ben oui, par exemple... Bah, c'est des personnes qu'on connaît très peu. On nous dit, bah, va passer du temps avec elles. Et en fait, bah, on se rend compte que bah, finalement, enfin, on s'entend très bien pendant des années après, ou même le temps qu'on se voit. Et
alors ça, c'est la foi en acte. On va finir par la place de l'écriture. Vous me disiez aussi, donc, comme Maëlys Bindériter, et c'est vrai que c'est peu courant, je le disais, donc, que vous aviez une forme de familiarité avec... avec les écritures. Aujourd'hui, quelle place ça prend dans votre vie? Est-ce que vous continuez un peu le rythme communautaire, tout en étant étudiante, de lire la parole de Dieu, on va dire, tous les jours, ou d'avoir un temps privilégié en semaine?
Oui, ben, dans ma prière personnelle, je me base directement, en général, sur les écritures. Pas forcément sur toute la liturgie des heures, mais mes jours comme ça, la Bible. Et
vous faites ça régulièrement?
Oui, oui, oui.
Oui, ça veut dire quoi régulièrement? Juste une fois par an, une fois par mois, une fois par jour?
Non, non. Mais déjà au moins toutes les semaines, pour préparer le dimanche. Parce que cette dynamique de préparation, c'est quelque chose que m'a apporté Ecclesiola pour vraiment se préparer et de cœur et dans nos actes aussi à vivre vraiment le dimanche et à être prêt aussi à accueillir, à se rendre compte qu'il y a des petites Pâques un peu à n'importe quel moment. Mais... et du coup, là, c'est toutes les semaines, mais aussi un peu tous les jours, quand je prie.
Et voilà, et c'est beau. Merci beaucoup, Colombe Carrère. Donc, on a compris, en tout cas, que voilà, ce sont des beaux fruits d'apprendre à vivre de la parole de Dieu et d'essayer de faire de sa semaine une montée vers le dimanche. Le mieux, ça paraît tellement simple, en fait, le mieux, c'est de rejoindre cette communauté et de partager avec eux ce qu'ils vivent. L'Église, dans le fond, par moments, ça devient aussi simple, tellement simple que c'en est désarmant. Mais le mieux est d'en faire l'expérience. Un site internet, ecclesiola.fr, si vous voulez savoir s'il y a une communauté près de chez vous, si vous pouvez les rejoindre à l'occasion de partages bibliques, de Lectio Divina, pardon, ou donc de vigile du samedi soir, n'hésitez pas, ecclesiola.fr. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.